Radio de la Paix. Il est 18h. Le journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Heureuse de vous retrouver pour cette dernière édition de ce vendredi 1er décembre 2023 sur Radio de la Paix. Demain samedi, c'est la reprise partielle des locales. Les électeurs voteront sur des bulletins sans sticker, un choix de la CEI qui surprend la Poissy et que le président Drissa Soulama juge inapproprié. Et puis 17 associations féminines du secteur de l'agriculture et de l'émancipation des femmes vont bénéficier d'un fonds de soutien de la France, apprend Jean-Christophe Béliard, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, lors de la cérémonie de clôture du fonds de solidarité pour les projets innovants 2022-2023. Dans l'actualité sur le continent, à Madagascar, la réélection d'André Rajaolina à la présidence a été proclamée ce vendredi par la Haute Cour constitutionnelle. Bonsoir à tous. Reprise des élections municipales dans 9 communes et de l'élection régionale dans le Guémon. Ce samedi 2 décembre, les électeurs vont voter avec des bulletins sans sticker. Le coordonnateur général de la plateforme des organisations de la société civile, Poissy, s'en dit surpris parce que, soutient-il, inapproprié. Drissa Soulama est joint par Francis Cassi.
Lors des élections locales du 2 septembre, la CEI a utilisé des bulletins avec des stickers. Donc, on devrait organiser les élections partielles, qui sont une reprise des élections du 2 septembre. Ces élections devraient effectivement être organisées avec des stickers. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi, au cours du cheminement de ces élections-là, changer les règles de jeu. Nous pensons que ce n'est pas opportun changer les règles de jeu, changer les bulletins, utiliser des bulletins sans stickers. Pour nous, on devrait continuer sur cette même lancée avec les bulletins qui avaient été utilisés lors des élections du 2 septembre.
Alors, quel est le rôle même des stickers sur les bulletins?
Je pense que le rôle des stickers, c'est pour authentifier les bulletins que la Commission électorale indépendante utilise lors de ces élections-là. Certainement qu'ils ont trouvé une autre formule pour authentifier, mais pour nous, étant entendu que c'est la même élection, c'est une reprise. Donc, on devait continuer avec ces mêmes bulletins.
Drissa Soulama, coordonnateur général de la plateforme des organisations de la société civile de Côte d'Ivoire, la Poissy. Et après une semaine de campagne électorale des municipales partielles demain, à Tiassalé, les bruits ont fait place aux visites de proximité pour convaincre les derniers électeurs et aussi à la formation des représentants de candidats dans les bureaux de vote qui se tient dans les différents quartiers généraux des 3 candidats en lice. Et les affiches et grandes pancartes à l'effigie des candidats ont été retirées des grandes artères et lieux publics. Retrouvons donc de Tiassalé, Jean-Claude Mabéa, notre envoyé spécial.
La campagne électorale s'est globalement déroulée à Tiassalé sans heurts et de façon civilisée. À 24 heures du vote, il est bon de rappeler qu'une rencontre d'information organisée par la CEI, la Commission électorale indépendante, a réuni les candidats ou leurs représentants, le corps préfectoral et les populations le mardi dernier à la préfecture de Tiassalé. La CEI, représentée par le premier vice-président Kone Sourou et la troisième vice-présidente en charge des régions de Lagnébi-Tiassa et des grands ponts, Salimata Porqué, ont annoncé les 3 principales mesures suivantes. Premièrement, la reprise des partiels dans les 9 communes et une région se fera sans sticker, ni pour les procès-verbaux, ni pour les bulletins de vote. Seuls feront foi pour la validation du bulletin, les signatures du président du bureau de vote et du secrétaire sur les bulletins, plus la signature des représentants des candidats sur les procès-verbaux. Deuxièmement, la liste électorale sera affichée dans chaque bureau de vote. Et troisièmement, après le dépouillement, le résultat de chaque bureau de vote sera affiché obligatoirement devant chaque bureau de vote et librement accessible aux populations. Nous avons vu ce vendredi matin 3 chars blindés surmontés d'armes lourdes du groupement d'escadrons blindés de la gendarmerie nationale stationnés en face de la première légion territoriale de la gendarmerie nationale au quartier résidentiel pour renforcer le dispositif sécuritaire. Du côté de la CEI, l'heure est aux préparatifs du scrutin. Pour l'heure, les populations vaquent normalement à leurs activités comme d'habitude. Jean-Claude Mabéa, Tiassalé, Radio de la Paix.
Merci à vous, Jean-Claude Mabéa, depuis Tiassali. Rappelons que 3 candidats s'affrontent pour ces municipales partielles de demain. Il s'agit du maire sortant, candidat indépendant, Joseph Assalé Timoko, de Sanogo Alpha du RHDP et d'Alexis Amichia, la tête de liste de la coalition PDCI-PPACI. Dans la région du Guémon, la ministre d'État Anne-Désirée Oulotto, par ailleurs cadre de la région, joue la carte de la prévention et en appelle à la responsabilité de tous les fils, filles et cadres de la région pour le maintien des élections apaisées, gage de développement. Cela fait suite, pour rappel, aux violences observées lors des dernières élections locales du 2 septembre. Le point avec notre correspondant Stéphane Adams.
La reprise des élections municipales et régionales dans la région du Guémon en mobilisation des électeurs pour la ministre d'État Anne-Désirée Oulotto, la paix conduit au bien-être dans les régions. Il ne faut pas se tromper de combat, a insisté l'envoyé du gouvernement auprès de ses parents.
Les jeunes du Guémon attendent beaucoup en matière d'insertion socio-professionnelle, en matière d'emploi. Les femmes attendent beaucoup en matière d'autonomisation. Les populations, dans leur grande majorité, attendent dans tous les compartiments. Il s'agit pour nous de répondre aux attentes de nos concitoyens. Il y va de l'intérêt des populations et de la région du Guémon.
Le message de l'envoyé du gouvernement semble trouver bonne écoute. Évariste Saha, cadre et fils de la région du Guémon.
Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Madame Anne-Désirée Oulotto, à travers son message, elle a ramené tout le monde à la raison, les uns et les autres, la main dans la main. Nous avons entendu des messages de motivation, de rassemblement, de cohésion. Nous profitons aussi pour dire un grand remerciement au président de la République qui l'a nommé ministre d'État.
Rappelons à toutes fins utiles, les enjeux de développement évoqués se trouvent sur toutes les lèvres des candidats comme slogan de campagne. Stéphane Adams de Diokwe, Radio de la Paix.
Direction le Nord Ivoirien, précisément à Ferkessé Dougou, où le corps préfectoral entend garantir un environnement électoral apaisé avant, pendant et après le scrutin du 2 décembre. À cet effet, le secrétaire général 1 de préfecture, Tapé Laba, explique ce en quoi consiste cette implication au micro de Marcel Bouni.
Notre implication, c'est de faire en sorte que ces élections se passent dans un climat apaisé. Et c'est dans ce but-là que, je dirais, depuis le 15 novembre, Journée de la Paix, nous avons convoqué tous les candidats en vue déjà de parler de l'élection apaisée. Et ce jour-là, chacun a parlé. Ce jour-là, c'est lui d'exutoire. Et on a plus ou moins compris ce qu'il a comme problème. Ils ont tous ressassé le passé. Alors qu'il s'agit de voir le présent, de voir comment organiser de meilleures élections et de ne plus refaire ce qui s'est passé. On s'est compris, on a pu faire la réunion. Depuis lors, avec l'entremise du comité civil et militaire, avec l'entremise du médiateur délégué, nous avons fait plusieurs réunions. La CEI, la commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, ça a été des séances de formation pour faire comprendre aux populations qu'il s'agit d'élections apaisées et que si on le vit vraiment, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Toujours avec la CEI, nous avons rencontré les candidats et les directeurs de campagne. Là encore, nous avons parlé, nous sommes compris sur de façon pratique ce qui doit être fait le jour des élections. On a toujours associé les jeunes et les femmes et j'ai dit les leaders communautaires. Donc nous sommes sûrs que tout va bien se passer. C'est une certitude, ça m'était un souhait.
À l'instant, le secrétaire général 1 de préfecture de Ferkessé Dougou tapait là-bas. Cérémonie de clôture du Fonds de solidarité pour les projets innovants 2022-2023, placé sous le thème des droits des femmes. L'ambassade de France a procédé à la clôture de son projet FSPI en soutien à la société civile ivoirienne. 19 associations dans le domaine de l'agriculture et de l'émancipation des femmes ont pu en bénéficier. Jean-Christophe Béliard est ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Il revient ici sur les objectifs de ce projet et répond aux questions de Mata Touré.
C'est un événement qui concerne la société civile, le Côte d'Ivoire. C'est un événement qui concerne les femmes de Côte d'Ivoire. Je trouve que ça avait du sens de le faire à Abobo. Alors qu'est-ce que c'est comme événement? C'est un fonds de l'ambassade de France. C'est des petits projets. On a mis 400 millions de francs CFA et avec 17 ONG de femmes. Et le travail, c'est encourager la femme à aller de l'avant, reconnaître ses droits, le droit à l'éducation, le droit à la formation professionnelle, le droit à un emploi, le droit à la sécurité, c'est les violences faites aux femmes, les droits à l'hygiène, comme on vient de le voir avec un beau projet à Odienné. Alors ça correspond aussi à quelque chose qui est important pour la France depuis quelques années, qui est ce qu'on appelle la diplomatie féministe, et donc qui concerne l'ensemble du monde. Le projet, les projets dont je vous parle pour la Côte d'Ivoire, il y en a dans l'ensemble du monde. On a réservé une enveloppe de 130 millions d'euros pour ces projets. Et donc, voilà, ici, c'est les projets de Côte d'Ivoire. Et donc, on rend hommage à ces femmes.
Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire célèbre ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. Et pour cette 36e édition, le slogan national choisi est « Les communautés en première ligne ». Et le thème au plan international, « Confier le leadership aux communautés ». Hier jeudi 30 novembre, à son cabinet, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a salué les progrès observés et les défis à relever qui passent par une synergie d'action. Écoutons un extrait de sa déclaration.
Les résultats en matière de lutte contre le sida dans notre pays ces dernières années montrent que la prévalence de la maladie a considérablement baissé, passant de 4,7% en 2010 à 1,82% à fin 2020. Durant la même période, le nombre de nouvelles infections à VIH-sida a connu une baisse de 66% et le nombre de décès liés au sida a baissé de 70%. Ces résultats encourageants ne doivent cependant pas nous faire perdre de vue. Les efforts qui nous restent encore à accomplir pour atteindre nos objectifs 3x95, 82% des personnes vivant avec le VIH-Sida ont été dépistées. 87% d'entre eux ont bénéficié du traitement antirétroviral et 87% ont obtenu une suppression de leur charge virale. Ces résultats devraient être améliorés si nous ambitionnons d'arriver à l'élimination du sida dans notre pays à l'horizon 2030. Pour combler ces gaps, l'engagement de tous est plus que nécessaire. Gouvernement, partenaires techniques et financiers, professionnels de santé, sans oublier les communes. Le rôle de ces dernières est déterminant pour parcourir les derniers kilomètres qui nous séparent de l'objectif de l'élimination du VIH-Sida ici à 2030. C'est toute la signification de ce thème de cette 36e journée mondiale de lutte contre le sida qui appelle à leur confier le leadership dans la réponse face au VIH-Sida, promouvoir le comportement sain et à moins de risques, contribuer à améliorer le taux de dépistage du VIH-Sida chez les enfants exposés, les hommes de 25 ans et plus et chez les jeunes, augmenter la couverture en traitement antirétroviral, de même qu'assurer le maintien durable dans les soins des personnes vivant avec le VIH-Sida. Je saisis l'opportunité pour lancer un appel aux communautés à l'effet de briser les barrières et la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH-Sida.
Vous écoutiez le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngou-Demba. Et parlons de transport, la 7e édition du Forum international et salon africain des transports, ouverte le 29 novembre dernier au parc des expositions d'Abidjan, s'est achevée ce 1er décembre et prévue donc se tenir sur 3 jours. Le FISAT réunit des professionnels des transports, de la logistique et des secteurs connexes et est organisé par Africa Transtour. Cet événement a été lancé officiellement par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Mata Touré.
C'est sur le thème modernisation des écosystèmes logistiques, des transports et des infrastructures que des experts en provenance de la France, de la Belgique ou encore du Maroc vont échanger et démontrer leur savoir-faire. Magnété Bamba est commissaire général du FISAT 2023.
Nous avons ici une plateforme par excellence qui met en face des institutionnels ou les experts du secteur privé.
Docteur Sile Siloui est le président du comité scientifique.
Avec un accent particulier sur la modernisation des écosystèmes logistiques, des transports et des infrastructures, mais sous l'angle de la durabilité, de la sécurité, de la digitalisation et de l'employabilité des jeunes.
Amadou Kone, ministre des Transports, est revenu sur l'importance de ce forum.
C'est une vitrine pour toutes les avancées que nous avons notées dans le secteur des transports. C'est également le lieu pour nous, Côte d'Ivoire, de prendre une position importante en matière de transport et de logistique.
Enfin, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, quant à lui, a salué à la dimension internationale les travaux attendus au cours de ce salon.
Le président Forum international et salon africain des transports s'attardera sur les différents défis que rencontre le secteur des transports. Ce secteur permet en effet de rapprocher les marchés, de rapprocher les peuples, de mettre ensemble les connaissances et de conjuguer les compétences sur tout le continent.
Ce forum sera meublé par des expositions commerciales, d'un forum de discussion, des panels et des rencontres d'affaires et une exposition de véhicules électriques.
L'actualité internationale nous conduit tout d'abord à Madagascar, où la Haute Cour constitutionnelle HCC a définitivement validé ce 1er décembre 2023 la victoire du président sortant Andry Rajaolina au premier tour de l'élection présidentielle, où il a remporté 58,96% des voix avec un taux de participation de 46,36%. C'était le 16 novembre dernier. La régularité a été contestée par l'opposition et les résultats ont été annoncés par le président de la Haute Cour constitutionnelle, Florent Rakotoarisoa. Et puis, direction en France, sinon à Dubaï pour la COP 28, où le président français Emmanuel Macron a exhorté ce vendredi 1er décembre les pays du G7 à la COP 28 sur le climat à s'engager à mettre fin au charbon avant 2030 pour montrer l'exemple. La poursuite des investissements en faveur du charbon dans le monde entier est une vraie absurdité au regard de l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, nous devons engager un virage absolu pour en sortir, a plaidé le président français Emmanuel Macron à la tribune du grand sommet annuel de l'ONU sur le climat. Cette information met un terme à notre édition, le rappel des titres. Demain samedi, c'est la reprise partielle des locales. Les électeurs voteront sur des bulletins sans sticker, un choix de la commission électorale indépendante qui surprend la poésie et que le président Drissa Soulama juge inapproprié. Et puis 17 associations féminines du secteur de l'agriculture et de l'émancipation des femmes ont bénéficié d'un fonds de soutien de la France, apprend Jean-Christophe Béliard, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, au cours de la cérémonie de clôture du fonds de solidarité pour les projets innovants. L'actualité internationale, eh bien, c'est la réélection d'Andry Rajaolina à la présidence de Madagascar qui a été proclamée ce vendredi par la Haute Cour constitutionnelle. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite Sonia Ndian pour votre magazine humanitaire.